but they'd rather show you black kids with flies on their faces on the television.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 11 mars 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
L'ONU appelle au calme après une mobilisation de groupes armés en Libye.
Au Soudan, deux nouveaux manifestants anti-putsch ont été tués hier à Khartoum. L'ONU et l'Union africaine estiment le pays en grave danger.
Une mission malienne de haut rang aujourd'hui en Mauritanie, alors que Bamako assure que rien ne met en cause son armée dans l'assassinat de ressortissants mauritaniens.
Au Burkina Faso, 160 000 nouveaux déplacés pour le seul mois de janvier, signalent des ONG sur place.
En Afrique du Sud, le chef de la commission d'enquête anti-corruption prend la tête de la Cour constitutionnelle.
Pas de succès hier en Turquie où se rencontraient les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
La MANUL, mission d'appui des Nations Unies en Libye, a mis en garde hier contre toute provocation à la suite d'informations sur une mobilisation de groupes armés autour de Tripoli, la capitale. La Libye est en pleine crise politique avec deux gouvernements concurrents revendiquant le pouvoir exécutif. Le point avec Nani Talani.
La MANUL affirme suivre avec inquiétude les informations sur la mobilisation de groupes armés et de convois militaires, ce qui accroît les tensions à Tripoli et ses environs. L'organisation a renouvelé son appel au calme et souligné l'importance de préserver la stabilité, exhortant toutes les parties à s'abstenir de toute action susceptible d'engendrer des affrontements armés. J'exhorte à la retenue et à s'abstenir de toute provocation, en parole et en acte, y compris par la mobilisation de forces armées, a pour sa part tweeté l'émissaire du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams. La MANUL exhorte les rivaux libyens à coopérer avec Madame Williams dans le cadre de cette médiation afin de parvenir à une sortie de crise négociée. Madame Williams propose une médiation entre camps rivaux pour faciliter la tenue d'élections dont le rapport en décembre a aggravé les divisions dans le pays. Dans un message sur Twitter, l'ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norlon, dit soutenir pleinement le message de la MANUL et appelle les différents protagonistes libyens à saisir l'occasion de rechercher une solution politique plutôt que de risquer une escalade.
Au Soudan, deux nouveaux manifestants anti-putsch ont été tués hier à Khartoum, alors que les représentants de l'ONU et de l'Union africaine estiment que le pays est en grave danger depuis le putsch qui a exacerbé les violences ainsi que la crise économique. Le point avec Rosine Munezero.
Alors que Volker Perthes, patron de la mission de l'ONU au Soudan et l'émissaire de l'Union africaine, Mohamed Hassan Lebat, se disait très inquiet de la situation dans le pays, deux manifestants ont été fauchés par des balles à Khartoum et dans sa banlieue, ont rapporté des médecins pro-démocratie. En tout, selon le syndicat des médecins, 87 manifestants ont été tués dans la répression et plus de 2000 blessés depuis que le Soudan a plongé le 25 octobre dans une spirale de violence. Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a limogé les civils qui partageaient le pouvoir avec lui. Et depuis, des milliers de manifestants défilent régulièrement. Les deux diplomates ont appelé les civils à s'unir car sans cela, ont-ils prévenu, ils vont abandonner l'avenir du pays aux militaires. Pour tenter de reprendre contact avec de grands alliés qui ont malgré tout dénoncé son coup de force d'octobre, le général Burhan a entamé jeudi une visite aux Émirats arabes unis, accompagné notamment de son ministre des Finances.
Une mission conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et comprenant le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major et le chef de l'agence de renseignement, le général Oumar Diarra et le colonel Modibé Koné, doit se rendre vendredi et samedi en Mauritanie. C'est ce qu'a appris hier l'AFP de sources diplomatiques.
Mercredi soir, le gouvernement malien a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat sur son territoire territoire de plusieurs ressortissants mauritaniens, il ne ménagera aucun effort pour retrouver les coupables, mais a assuré que rien, pour l'instant, ne permettait d'accuser des soldats maliens.
La Mauritanie avait mardi accusé l'armée malienne d'actes criminels récurrents sur son sol contre les Mauritaniens, et ce, à la suite de la disparition d'un certain nombre d'entre eux dans la zone frontalière.
Au Burkina Faso, quelques 160 000 personnes ont été contraintes de fuir leur localité pour le seul mois de janvier face aux attaques djihadistes meurtrières frappant le pays, ce qui porte le nombre total de déplacés à 1,7 million.
Plus de deux tiers sont des enfants selon plusieurs ONG, dont Médecins du Monde et le Conseil norvégien des réfugiés. Les ONG craignent par ailleurs que la crise en Ukraine n'affecte l'aide humanitaire au Burkina Faso, certains donateurs ayant déjà indiqué, selon elle, qu'ils allaient diminuer de 70% leur financement afin de soutenir des opérations en Ukraine.
En Afrique du Sud, le juge Raymond Zondo, qui a dirigé la commission d'enquête sur la corruption d'État sous la présidence de Jacob Zuma, a été nommé à la tête de la Cour constitutionnelle du pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Déjà vice-président de la Cour constitutionnelle, le juge Raymond Zondo a été promu par le chef de l'État Cyril Ramaphosa. Ils étaient quatre candidats au poste, tous auditionnés lors de longues auditions télévisées en février dernier. Le président de la Cour constitutionnelle est le défenseur des droits de tous les Sud-Africains et porte la responsabilité d'assurer l'égal accès à la justice, a déclaré le président Ramaphosa dans un communiqué annonçant la nomination du juge Zondo. La Cour constitutionnelle n'a jamais dévié de sa position exigeante de l'ancien président Jacob Zuma, qui l'obtempère aux injonctions de la commission d'enquête. Quand l'ancien chef de l'État a refusé de témoigner en juillet 2021, la Cour constitutionnelle a ordonné son incarcération durant 15 mois pour outrage. M. Zondo prendra ses fonctions le 1er avril.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne n'ont pas réussi à s'accorder hier sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de leur première rencontre depuis le début de l'offensive de l'armée russe. Sergueï Lavrov et Dmytro Kouleba ont campé sur leur position au cours de leur discussion en Turquie. Le ministre ukrainien a déclaré que son homologue russe lui avait assuré que la Russie allait continuer son agression jusqu'à ce que nous acceptions sa demande de capituler, mais l'Ukraine ne se rendra pas, a-t-il clamé.
Moscou a promis hier l'ouverture quotidienne de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens fuyant les combats de gagner la Russie, alors même que son armée poursuivait sa manœuvre d'encerclement de Kiev, la capitale ukrainienne. L'Ukraine réclame pour sa part la mise en place de passages sécurisés en vue des évacuations de civils à l'intérieur de ses frontières.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l'armée russe d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Mariupol et Volnovakha dans le sud-est et d'avoir mené une attaque sur le trajet prévu d'un convoi humanitaire. Il a ajouté qu'environ 100 000 personnes avaient pu quitter ces deux derniers jours d'autres villes ukraines en proie au combat.
Par ailleurs, l'armée russe a qualifié jeudi de mise en scène de nationalistes ukrainiens la frappe ayant visé la veille une maternité et un hôpital pédiatrique de la ville encerclée de Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Cette attaque qui a fait 3 morts, dont une fillette, a suscité une vague de condamnations internationales.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi en urgence sur la fabrication supposée d'armes biologiques en Ukraine, à la demande de Moscou, dont la crédibilité en matière d'armes chimiques a été mise en cause par Washington et Londres lors d'une session sur la Syrie.
Les États-Unis ont affirmé que l'Ukraine n'avait pas vraiment besoin d'avions de combat pour contrer les attaques russes, mais ont envisagé de lui fournir davantage de systèmes de défense solaire. Le Congrès américain a lui adopté un nouveau budget fédéral hier, un budget qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne.
Le président russe Vladimir Poutine a prévenu jeudi que les sanctions occidentales visant son pays en lien avec l'Ukraine allaient aggraver la crise énergétique et l'inflation des prix alimentaires à l'échelle mondiale. mondiale.
Pour leur part, les pays du G7 ont appelé hier les pays producteurs de gaz et de pétrole à augmenter leurs livraisons pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et au risque de pénurie liée à l'invasion de l'Ukraine. L'OPEP a un rôle clé à jouer alors qu'elle se refuse pour l'instant à accroître sa production pour soulager le marché, ont-ils ajouté. La Minute Éco, Rosine Mounezero.
L'Afrique du Sud, le plus grand pays de l'Union douanière d'Afrique australe, est le pays le plus inégalitaire au monde, se classant au premier rang parmi 164 pays, souligne la Banque mondiale dans un rapport intitulé « Inégalité en Afrique australe ». 30 ans après la fin de l'apartheid, la race reste un facteur clé des fortes inégalités en Afrique du Sud, en raison de son impact sur l'éducation et le marché du travail, estime la Banque mondiale. L'inflation annuelle a atteint 10% en février en Égypte, au plus haut depuis mi-2019, selon l'Agence nationale des statistiques, alors que la guerre en Ukraine fait flamber les prix à travers le monde. En février 2021, ce taux plafonnait à 4,9% selon l'agence. Il a explosé en février 2022 à 10% car les prix des aliments et des boissons, notamment les légumes, les fruits, le pain et les céréales, ont augmenté de 20,1%, explique l'agence gouvernementale. Les pays du G7 ont appelé jeudi les pays producteurs de gaz et de pétrole à augmenter leurs livraisons pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et au risque de pénurie liée à l'invasion de l'Ukraine. Nous notons avec une vive inquiétude la charge que cela représente pour les ménages, en particulier pour les ménages à faible revenu. Nous reconnaissons également que la hausse des prix sera ressentie plus durement dans les pays en développement, qui sont des importateurs nets d'énergie et dont les ressources financières sont déjà épuisées, ont souligné les ministres de l'énergie des pays du G7.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite à ce vendredi des matchs de la Basketball Africa League qui se joue à Dakar au Sénégal, à suivre ce soir à 17h30 temps universel, le duel maghrébin entre les redoutables Tunisiens de l'US Monastir et les Marocains de l'AS Salé. Les Tunisiens comptent 2 victoires en 2 matchs, tandis que les Marocains en ont une seule et veulent refaire leur retard. Juste après, à 21h temps universel, la formation hôte Dakar Université Club tentera d'arracher une première victoire dans cette compétition devant les Rwandais de REG, Rwanda Energy Group, qui totalise aussi 2 victoires jusqu'ici. Les Sénégalais ont perdu leurs 2 premiers matchs face à Slack de la Guinée et les Mozambicains de Ferroviaro d'Abeira. Football, l'UEFA a ouvert hier une enquête contre le Paris Saint-Germain et ses dirigeants, son président Nasser Al-Khelaifi et son directeur sportif Leonardo. Les médias espagnols ont rapporté qu'Al-Khelaifi et Leonardo ont tenté de protester auprès des arbitres après le naufrage face au Real Madrid 3-1, furieux de la validation du premier des 3 buts de Karim Benzema. L'avant-centre français a pressé le gardien parisien Gianluigi Donnarumma avant de marquer et les arbitres ont décidé de ne pas siffler faute et de valider son but. Selon l'AFP, Leonardo et le président ont voulu parler à l'arbitre et ont insisté quand il a refusé. Le ton est monté quand ils se sont aperçus que la scène était filmée par un téléphone portable et qu'ils ont demandé au propriétaire d'arrêter. La radio espagnole Cadena Ser a affirmé que le président du PSG a menacé un employé du Real Madrid qui a tenté de filmer la scène avec son téléphone portable. Et puis, Chelsea a déclaré vouloir discuter avec le gouvernement britannique. Il dit vouloir lui demander de changer la licence accordée au club de football pour qu'il puisse fonctionner aussi normalement que possible après les sanctions imposées hier à son propriétaire russe Roman Abramovich, qui touche par ricochet le champion d'Europe de foot. Les autorités britanniques ont annoncé un gel des avoirs de Roman Abramovich dans le cadre de mesures de représailles prises contre des oligarques russes liés au Kremlin après l'invasion de l'Ukraine. Nous revenons au basketball pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Bien, il y avait 2 matchs, Golden State et Denver, qui se poursuit. J'aurai le résultat dans l'édition de 7h temps universel. Pour ce qui est du second match, Brooklyn Nets de Kevin Durant et Philadelphie de Joel Embiid, eh bien, Kevin a eu raison de Joel. En effet, les Brooklyn Nets ont battu Philadelphia 129-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, et nous vous le disions hier, le comité technique spécial dirigé par l'ancien président Gukuni Wedei ne mènera plus les discussions prévues dimanche au Qatar avec les groupes rebelles. Il a été remplacé par un comité spécial chargé de conduire les négociations sous la houlette du chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zeni. Ce changement ne risque-t-il pas de repousser le dialogue national censé aboutir à un calendrier électoral pour un retour des civils au pouvoir? Abdulrahman Dia a joint à N'Djamena le constitutionnaliste Ahmad Mahamat Hassan.
Je me dis que le président Gukuni est démissionné ou qu'on est d'office remplacé par une nouvelle équipe dirigée par le ministre des Affaires étrangères. Les conséquences politiques sont les mêmes. Depuis la prise du pouvoir du Conseil militaire transition après la disparition du maréchal Idriss Déby en avril 2021 passé, il était question d'engager un dialogue national inclusif intertchadien pour rétablir la paix, la sécurité et la réconciliation intertchadienne. Mais au préalable, un comité spécial a été désigné pour organiser un pré-dialogue très spécial avec les politico-militaires parce que, compte tenu leur statut, c'est pour les frères tchadiens qui ont opté pour la violence et qui continuent à croire à la recherche du pouvoir et l'exercice du pouvoir par la violence. Alors, la question n'est ni technique ni juridique. Elle est plutôt une question d'expérience, une question de confiance.
Si je vous comprends bien, Gukuni Wedei était le profil idéal pour mener ce pré-dialogue.
Tout à fait. Quand on dit de son expérience d'ancien maquisard du Vrolina, d'ancien président de la République qui a accepté de quitter son exil de la Libye et de l'Algérie pour venir vivre au Tchad sous le régime du maréchal Idriss Déby, non? Et donc, il jouit d'une certaine respectabilité au Burkou et Nizi Tibessé à l'extrême nord, à la frontière avec la Libye. Et donc, en principe, c'était la personne désignée pour négocier avec les politico-militaires, mais le remplacer n'est pas une bonne idée.
Ce dialogue qui a déjà été reporté une fois, pourra-t-il toujours se tenir à partir de dimanche au Qatar?
À ce niveau-là, c'est une question pertinente que vous posez parce qu'il y a eu plusieurs reports pour des questions logistiques, des questions de passeport et autres. C'est des questions matérielles et pratiques et qui avaient été avancées comme argumentaires pour justifier les différents reports. Mais cette fois-ci, ça m'étonnerait que ça puisse se tenir parce qu'il y a de la méfiance qui s'est installée par rapport à ce changement d'équipe. On a dit qu'il y a une mésentente avec le pays organisateur Doha et les Émirats arabes unis et le gouvernement du Tchad.
Tant que le pré-dialogue n'aura pas abouti, il sera difficile de se fixer sur une date des élections qui doit consacrer la fin de la transition, non?
Il était prévu, le Conseil militaire de transition organise un dialogue qui a annoncé pour légitimer le gouvernement et la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition après la disparition du maréchal Idriss Déby, non? Et que tout le capital et toute la légitimité est basée sur l'organisation d'un dialogue inclusif de réconciliation qui devait permettre aux Tchadiens de se retrouver, de se réconcilier et de redéfinir un nouveau contrat social qui devait se traduire par une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum. Et c'est sur la base de la nouvelle constitution que les élections générales seraient organisées pour doter le pays des institutions de pouvoir plus légitimes et démocratiquement choisies pour le peuple tchadien. Tant que ces dialogues ne se tiennent pas, les conditions d'un dialogue sincère et crédible ne sont pas réunies.
Voilà, c'était le constitutionnaliste Ahmad Mahamat Hassan, joint à N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Guinée, retour sur la menace de dizaines de partis d'appeler à manifester si la junte au pouvoir persiste à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête du pays. Pour rappel, dans une déclaration accusatrice transmise à l'AFP, ces partis reprochent à la junte une vision unilatérale. Ils la soupçonnent de chercher à discréditer et humilier leurs leaders en les poussant hors de chez eux au nom d'un programme de récupération de biens de l'État. Ce fut le cas récemment avec des opposants comme Sélou Dalène Diallo et Sidia Touré, entre autres. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry le professeur Kabinet Fofana, analyste politique.
Et les partis politiques ils sont sûrement arrivés, pour les signataires bien évidemment, à la conclusion qu'il y a un état de pourrissement essentiellement dû à un manque de visibilité mais aussi de lisibilité sur la transition, notamment sur le contenu mais aussi la durée de la transition. Je pense qu'ils sont aujourd'hui agacés par cela. Et tout ceci a été aussi un peu surdéterminé par le fait que pour certains d'entre eux, il y a aujourd'hui une sorte de spectre d'exclusion qui plane sur leur tête, notamment celui d'Alain Diallo qui est dans un dossier aujourd'hui au niveau de la CRIEF.
Parlant de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques instaurée par la junte, ces partis politiques-là parlent d'instruments pour disqualifier des leaders politiques gênants. Est-ce que ce sont des menaces individuelles ou réellement c'est une poursuite contre la corruption qui se fait dans ce pays?
Ils font explicitement allusion à Sélou d'Alain Diallo dans l'affaire Air Guinée, mais aussi Mamadou Sylla de l'UDG. Et je ne pense pas qu'à ce stade que l'on puisse véritablement dire qu'il y a un projet d'élimination du personnel politique par la CRIEF. Je crois que tout ceci est en réalité la conséquence d'un climat délétère et d'une sorte de désamour qu'il y a aujourd'hui entre les partis politiques et la junte.
Le colonel Mamadi Doumbouya avait dit faire de la justice sa boussole. Est-ce qu'il n'est pas plutôt logique avec lui-même?
D'aucuns estiment aujourd'hui la façon dont le dossier de déguerpissement a été conduit, que l'on a peu obstrué la dynamique judiciaire, qu'on avait juste besoin de judiciariser la chose et laisser en réalité la justice s'en occuper. Donc à part ceci, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de problèmes dont on pourrait éventuellement lui reprocher qui serait un manque de volonté de faire justement de la justice à boussole.
La CEDEAO réclame à la junte un calendrier clair pour le retour des civils au pouvoir. Maintenant, il y a la gogne interne qui s'ajoute. Pensez-vous que cela fasse plier le colonel Mamadi Doumbouya?
Rappelez-vous que lorsqu'il a été question pour la CEDEAO d'envoyer un facilitateur, un envoyé spécial, le colonel Mamadi lui-même avait donc dit qu'il n'y avait pas de nécessité parce qu'il n'y avait pas de crise. Aujourd'hui, la crise, elle est visible, elle se vit. Donc je pense que ce serait pas intelligent de la part de Mamadi et du CNRD de relativiser un peu le fait qu'aujourd'hui que la classe politique se trouve rejointe par la communauté internationale sur tant bien de revendications.
Le professeur Kabinet Fofana, analyste politique, joint à Conakry. La décision de l'Ouganda de se retirer de l'Organisation internationale du café a divisé les producteurs de café du pays, deuxième plus grand exportateur de café d'Afrique, toutes variétés confondues. Un reportage à Kampala de la correspondante de la VOA Halima Atoumani, repris ici par Mohamedou Humfa.
Robert Kabushinga, un caféiculteur qui vit dans le district de Wasiko en Ouganda, fait partie des producteurs mécontents de la décision de l'Ouganda le mois dernier de se retirer de l'OIC, Organisation internationale du café. L'Ouganda affirme que les tarifs et autres obstacles limitant ses exportations de café ont motivé cette décision critiquée par certains producteurs.
Comment cela affecte-t-il le cultivateur? L'acheteur de café n'achète que parce qu'il peut vendre et s'il est sûr d'avoir un contrat. Il n'achètera pas s'il n'est pas sûr de pouvoir l'amener dans les stocks sacrifiés des entrepôts de l'International Commodity Exchange. Et à cause de cela, nous pourrions très facilement nous retrouver avec une récolte excédentaire ici parce qu'il n'y a pas d'acheteur.
Mais le syndicat national des producteurs de café, qui regroupe quelques 1500 caféiculteurs, soutient la décision de retrait du gouvernement. Son directeur exécutif, Joseph Nkandou, affirme que les agriculteurs ont désormais la possibilité de s'approprier leurs produits, d'investir et d'améliorer leur café.
The farmer has been getting...
L'agriculteur obtient souvent moins de 5% de la valeur au détail. On vend les 95%. La seule façon pour cet agriculteur d'améliorer ce qu'il tire de cette chaîne de valeur du café est de se mettre à niveau.
That is getting from this coffee value chain is to upgrade.
Le retrait de l'Ouganda ne signifie pas la fin des exportations de café, a déclaré le directeur général de l'Agence ougandaise de développement du café. Emmanuel Iyamulemye affirme que l'Ouganda peut désormais se concentrer sur la promotion de son café sur d'autres marchés.
Nous cherchons des marchés spécialisés. Nous avons nos PME qui cherchent à pénétrer de grands marchés comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et bien sûr les pays scandinaves et l'Europe.
Les responsables de l'OIC affirment que l'organisation a tenté de résoudre les plaintes de l'Ouganda sans succès pour le moment. L'OIC envisage l'intégration du secteur privé et d'un groupe de travail public-privé dans un nouveau projet d'accord sur le café. Pour rappel, l'Ouganda est le premier exportateur de café robusta en Afrique, avec 6,1 millions de sacs exportés chaque année.
Voilà, merci Mohamed Houmfa. Acte de vandalisme, annulation d'événements artistiques, sanctions financières, la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine cause des problèmes à certains Russes vivant ici aux États-Unis. Même si, comme l'a constaté Veronica Balderas Iglesias de la VOA, beaucoup s'opposent à l'agression de Moscou et se disent en faveur de la paix. Récit de Claire Morin-Gibourg.
Des milliers de personnes se sont rassemblées à New York pour soutenir l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'immigrante russe Sacha Navitseva s'est sentie la bienvenue au début.
J'ai entendu des gars américains derrière moi dire des choses pas très bonnes sur les Russes. Ils sont devenus un peu agressifs, ils m'ont dit des choses désagréables. Et j'en ai entendu deux autres, des Ukrainiens, que j'ai entendu dire quelque chose comme « retourne en Russie ».
Son cas n'est pas isolé, car beaucoup expriment leur opposition aux actions de Moscou en s'adressant aux Russes vivant aux États-Unis. À Washington DC, le restaurant Russia House, par exemple, aurait été vandalisé. Une véritable culture de l'annulation frappe les entreprises russes, explique Mikhail Podolsky, qui est né et a grandi à Moscou.
Les magasins essaient de se débarrasser de la vodka russe. Les communautés en ligne essaient de changer le groupe russe en groupe russophone. Les magasins russes enlèvent les panneaux écrits en russe pour, je suppose, se protéger.
Yulia Lushinkova, une Russe vivant dans le Colorado, espère que l'animosité ne s'aggravera pas.
C'est très triste que cela se produise. Les gens sont des gens, il ne faut pas généraliser. Quelqu'un ayant un nom de famille russe ne devient pas automatiquement un ennemi.
La diaspora russe s'efforce de sensibiliser, de faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à la guerre, affirme Natalia Arnaud, présidente de la Free Russia Foundation, qui plaide pour une Russie libre et démocratique.
Nous organisons une vaste campagne d'information afin que ces Russes exilés puissent cibler ceux qui sont dans le pays et leur dire la vérité. Envoyez-leur des photos et des vidéos de ce qui se passe.
Le message semble passer. Les manifestants sont descendus dans la rue en Russie malgré la menace de se faire arrêter et de passer plusieurs années en prison. Né à Moscou, Peter Litsky vit aujourd'hui à San Francisco. Il craint que des sanctions américaines et européennes sévères ne sapent le changement en Russie.
Si les gens deviennent encore plus pauvres, ils se concentrent sur leur survie. Ils n'auront probablement pas le temps de travailler à changer le système politique.
Vivant à Los Angeles, Marina Diou a des parents en Russie et en Ukraine. Elle comprend les perceptions négatives que certains ont des Russes ces jours-ci. Mais il est temps, dit-elle, de se rassembler et de mettre fin aux souffrances insensées de la guerre pour les deux parties.
J'espère juste que cette haine ne deviendra pas plus violente, que les gens ne s'y provoqueront pas, mais uniront leurs efforts pour soutenir le peuple en Ukraine comme en Russie.
VOA a contacté plusieurs Russes aux États-Unis qui soutiennent l'invasion de l'Ukraine, mais ils ont refusé d'être interviewés.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde, Kelvin Fowler à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.